Merci, Monsieur le Président. Après avoir attendu avec beaucoup d'intérêt les discussions, ce débat très intéressant, nous avons entendu une nouvelle proposition. Qui pour certaines ne nous convainquent pas, mais d'autres offrent des possibilités intéressantes. Quoi qu'il en soit, Monsieur le Président, nous sommes heureux de participer à la discussion sur la section 3. Et comme d'autres l'ont dit, la section 3 et la section 4 font partie du dispositif. Et ces deux sections pourraient avoir un impact réel s'ils permettent de promouvoir des mesures concrètes, réalistes, qui pourraient améliorer la protection des civils. La délégation des États-Unis et d'autres l'ont déjà dit lors de cette session et précédemment, lorsque nous avons discuté de cette déclaration. Le 3-3 suscite des préoccupations importantes. Si le 3-3 ne reflète pas les réalités opérationnelles du DIH, il pourrait empêcher les États-Unis et éventuellement d'autres États qui sont engagés dans des conflits armés ou qui ont une expérience récente de conflits armés, de pouvoir signer la déclaration. Il n'est pas raisonnable de s'abstenir de l'utilisation d'armes explosives lorsque les effets pourraient aller au-delà des objectifs militaires. Comme indiqué à la section 1, sur laquelle nous avons beaucoup parlé, les effets directs et indirects d'armes explosives, comme d'autres armes, d'une manière ou d'une autre, vont toujours au-delà des objectifs militaires. C'est particulièrement vrai si l'on pense à tous les effets de dommages indirects qui sont déjà dans le projet de déclaration ou qui ont été proposés en ajout. Par exemple, les effets psychosociaux. Dans certains cas, les militaires peuvent utiliser des armes explosives pour obtenir des effets au-delà, par exemple, des effets sur d'autres objectifs militaires. Par exemple, une attaque pourrait inclure l'utilisation d'armes explosives pour créer un obstacle sur une route et cette partie de l'attaque cause des effets au-delà de ce qui peut être considéré comme l'objectif le plus immédiat, à savoir qu'un point soit ciblé. Mais cela peut également avoir moins de dommages collatéraux qu'une attaque directe de l'ennemi. Cela pourrait avoir des effets pour les civils qui veulent utiliser cette route. Et donc il est difficile que le paragraphe 3.3 soit applicable concrètement, tout simplement parce que son application pourrait ne pas être cohérente avec les efforts d'utilisation des armes explosives pour minimiser les victimes dans le contexte d'une opération militaire spécifique. Toutefois, nous comprenons et nous apprécions le fait qu'un grand nombre de délégations pensent que la 3-3 ne doit pas répéter les prescriptions existantes du DIH, qu'il faille aller plus loin que ce que exige le DIH. Nous pensons qu'il devrait être possible d'intégrer certains éléments clés de ce projet. Ma délégation propose la chose suivante. Assurer que les forces armées adoptent et appliquent une série de politiques et pratiques pour contribuer à éviter des dommages civils, y compris lorsque cela est possible, en s'abstenant d'utiliser des armes explosives dans les populations peuplées. Nous allons présenter cela par écrit. Les éléments, tout d'abord, malheureusement, on dit qu'il faut avoir un principe d'évitement. Malheureusement, il est impossible d'éviter tout dommage civil pendant les conflits armés. Il faut être réaliste. Il faut ajouter des libellés pour qu'il y ait plus de flexibilité, reconnaissant que l'utilisation d'armes explosives dans certaines circonstances peut être la meilleure option pour obtenir un effet militaire. Ça peut être une option qui représente le moins de risques pour les civils. Deuxièmement, il y a toujours des effets attendus qui iraient au-delà des objectifs militaires. C'est la ligne rouge pour ce qui est 3-3. L'utilisation d'armes explosives dans des zones peuplées devrait faire l'objet de limitations dans toutes les circonstances. Notre suggestion se concentrerait sur les dommages aux civils et objets civils, ce qui doit être au cœur de cette déclaration. Troisièmement, le nouveau libellé proposé indique, conformément au droit humanitaire international, cela doit être supprimé. Le 3-3, même avec notre modification, va au-delà de ce qu'exige le DIH. Nous comprenons également ce qu'ont dit d'autres délégations, telles que rédiger cette conférence au DIH pour être interprétée de différentes manières, il n'est pas clair. Monsieur le Président, je voudrais passer au 3.4, qui, à notre sens, doit également être amendé. Comme on l'a dit lors de la discussion sur la section 1, le terme reverberating n'est pas utilisé dans le DIH. Il n'y a pas de définition convenue ni de sa signification ni son champ d'application. Les États s'engagent à prendre en compte les effets sur les civils et les objets civils. Il faut que on sache de quels effets il s'agit. Quels effets doivent être pris en compte par les États et le commandement. Donc, le terme effet reverberating doit être remplacé par indirect au 3.4. Nous avons entendu des délégations de toute une série de points de vue faire cette proposition. Le 3.4 devrait indiquer, s'assurer que dans les politiques et pratiques, les 3.3 et 3.4 sont plus étroitement liés pour ce qui est des politiques et pratiques. Enfin, pour ce qui est du nouveau libellé sur l'évaluation des dommages de champ de bataille, nous avons entendu des critiques de cette référence. Nous sommes d'accord pour dire que ces évaluations constituent un concept important se figurant au 3.4, mais ça ne couvre pas nécessairement tout ce qui doit être couvert. Toutefois, et la France l'a dit, l'évaluation de dommages sur les champs de bataille n'amène pas forcément des retours d'expérience. Il faudrait dire et identifier des enseignements tirés, comme l'a proposé la délégation de la France. Et il y aurait un découplage entre l'évaluation du champ de bataille et l'autre aspect. Nous recommandons de remplacer possible par faisable. Cela refléterait le 3.2 d'un texte. On ne voudrait pas modifier le DIH. Nous ne pensons pas que ce soit l'intention de cette section.